6h.
Jardin de ma ville, au jardin du roi, il revient le temps de tes folles amours. Voyage au long cours à brûler de soleil pour l'île grisée au parfum du vent. Terre, fleurs, jardin sur la mer, mon île de fleurs, terre de Floralie.
Bonjour, je suis aujourd'hui en compagnie de Monseigneur Gilbert Aubry.
Bonjour.
Bonjour Monseigneur, comment allez-vous ?
Bonjour, ça va bien, sur les deux pieds, comme vous, voilà.
Ah ben, c'est ce qu'il faut, c'est la santé, il faut la bonne humeur et tout ce qu'il faut. Et nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler de choses simples, de votre vie, Monseigneur, si vous me permettez.
Oui, pas
de problème. Et on va parler dans quelques instants de vos 50 ans d'épiscopat.
Oui, volontiers.
Bien, on va revenir à votre naissance. On va faire un petit tour bien avant. Vous êtes né en 1942.
1942, le 10 mai, je suis né à Saint-Louis de la Réunion, dans la rue Fémy, près de l'hôpital Dromard. Ça jouxtait l'hôpital à Saint-Louis.
Et vous avez grandi dans une famille. Comment ça se passait ? Parce que j'aime bien remonter un petit peu dans ces environs-là. On était encore pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que la Guerre mondiale a fait 39-45, 1942. Comment notre évêque a vécu sa petite enfance ?
Quand je suis né à Saint-Louis, mon père travaillait comme surveillant la journée à l'usine du Golf de la distillerie. Et puis en fin de journée, il partait à l'hôpital Dromard et il était surveillant de nuit. Et il dormait quelques heures à peine. Et puis c'était un temps difficile. Ma mère, à ce moment-là, ne travaillait pas. Ensuite, elle est devenue institutrice. Et c'est comme ça que nous avons quitté Saint-Louis pour aller habiter à Stella, au piton Saint-Leu, Stella.
C'est là où vous avez fait votre scolarité,
Ma scolarité, je l'ai passée le primaire à l'école de garçons des pitons Saint-Leu. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas la mixité à l'école. Et on se retrouvait là, justement, avec tout le panorama des sensibilités ethnoculturelles de la Réunion, puisque là, il y avait il y avait des Noirs, il y avait des Métis, il y avait des Blancs, des Chinois, les Arabes, tout ce monde-là se retrouvait sur les bancs de l'école et dans la cour de récréation. Alors, on avait des instituteurs, on disait pas professeurs des écoles à l'époque, ils avaient pas de grands diplômes, mais c'était des pédagogues qui nous faisaient travailler.
Donc ensuite, dans cette scolarité-là, vous avez vu que vous êtes parti ensuite à Madagascar.
Ah, pas tout de suite, pas tout de suite.
C'est beaucoup plus tard, ça.
Après le piton Saint-Leu, bon, j'avais une santé défaillante. Là, j'étais complètement décalcifié. Le médecin avait dit qu'il faut l'envoyer dans les montagnes. Dans les montagnes où ?
Vous êtes parti à Sillaos.
C'est là où il y avait Sillaos. Je suis allé à Sillaos en 1952 et j'avais pas 10 ans encore. Voilà.
Et vous avez été scolarisé là-haut, toujours en primaire, mais dans une
école spécialisée. Ah non, Sillaos, c'était le secondaire, là.
Oui,
c'était le secondaire. Alors, avec une formation français, latin, anglais, grec, et voilà. Donc, j'ai fait jusqu'au baccalauréat lettres, que j'ai passé à Saint-Denis. Et après le baccalauréat lettres, je suis allé à Madagascar, au collège Saint-Michel, chez les jésuites.
Ah, c'est là-bas que vous avez commencé à apprendre le monde religieux et vous former à devenir ensuite prêtre et travailler.
Non, c'est plus complexe que ça.
Oui.
Bon, déjà au petit séminaire de Sillaos, on avait, on pourrait dire, deux catégories d'enfants qui étaient là. Donc, à l'époque, il n'y avait pas les collèges que nous avions aujourd'hui. Il n'y avait que deux possibilité pour le secondaire, c'était soit Silos, petit séminaire, soit le lycée Le Comte de Lille.
Qui était à Saint-Denis.
Qui était à Saint-Denis. Et comme il fallait, moi, être un peu en altitude et me redoper, refaire une santé, on m'a envoyé à Silos. C'est pour ça j'étais au petit séminaire.
Petit séminaire, c'est là qu'il y a les sources, il me semble, à Silaos pour reprendre la santé. C'est là-bas que vous avez profité.
Ah oui, mais moi je suis pas baigné dans les, je suis pas allé au terme.
Oui.
Sauf en passant de temps en temps, on allait à une des sources et puis on buvait de l'eau là. On appelait ça l'eau de Vichy parce que ça bouillonnait, il y avait des bulles, mais c'était de l'eau ferrugineuse. Hein.
C'était voilà. De l'eau de source, de l'eau ferrugineuse.
Ah ben on était directement sur la source à l'époque.
Et donc ça vous a profité du coup, ça vous a bien aidé, et jusqu'à maintenant vous avez toujours la santé.
Ah ben la santé elle s'est bâtie au fur et à mesure, parce que normalement je n'avais pas le droit de faire trop de sport, parce que j'étais décalcifié, et puis à un moment donné j'ai dit zut et flûte, les papiers du médecin, moi j'en tiens pas compte, et... À ce moment-là, surtout à partir de la troisième, là, je me suis mis vraiment au sport. J'étais un très grand sportif.
Ah oui.
Et puis, on faisait aussi du football, du basket. Et comme c'était aussi en internat, le jeudi, on avait un régime spécial et on allait en promenade, en groupe, dans les quatre coins du cirque. Ce qui a fait qu'on découvrait aussi la nature, les arbres. On nous apprenait à regarder et à sentir.
Apprécier l'île, apprécier le cirque de Silaos. Et c'est comme ça que ça vous a donné ensuite l'amour de l'île, l'amour du vivre ensemble. C'est ce côté-là que
dans mon enfance, parce que mon père avait commandé une carabine française chez Manu France. Il allait à la chasse, il allait à la pêche, et moi j'étais toujours avec lui. Alors quand il allait à la chasse, vous voyez qu'il ajustait sa carabine au moment où il allait tirer dans les perdrix et puis les cailles. À ce moment-là, moi je bougeais mon pied dans la paille et tous les oiseaux fichaient le camp, parce que j'aimais pas qu'ils tuent les oiseaux.
Ah oui. Bon. Un chasseur qui tue pas d'animaux, c'est pas un chasseur.
Parfois il y avait un lièvre qui avait trop traîné là.
Il se faisait tuer. Bien. Et donc après vous avez passé votre bac, c'est toujours là-haut au séminaire.
J'ai passé le bac lettres à Saint-Denis, mais à partir de Silaos, on était 9. Étant terminal, c'était vraiment un petit groupe.
Hein. Oui.
Et on a tous été reçus. C'est après cela que je suis allé à Tananarive,
oui.
Oui, chez les au collège Saint-Michel, mais collège dans le sens un peu britannique, c'est-à-dire une grosse boîte. Bon.
C'était du privé?
Ah ben c'est privé, mais les programmes étaient très pointus. C'était les programmes qui étaient en vogue, calqués sur le système français.
Oui, c'est ça, à l'époque, Madagascar était encore française. Et
j'ai passé mon bac oral au lycée Gallieni, en haut, près du palais de la Reine. Et il y avait aussi un oral philo. Alors il y avait la prof de philo, je me souviens très bien. Elle avait des petites lunettes, là, comme Madame Lelombec dans les dessins humoristiques, là. Alors, on avait un petit panier, des papiers dedans pour le sujet.
Ouais.
Et alors, mon sujet, c'était la parole et la pensée. Très bien, elle me dit, bon, jeune homme, vous allez au fond, vous avez un quart d'heure, il y a d'autres qui passaient avant. Et puis arrive mon tour, j'expose mon sujet, en référence avec quelques auteurs, et à la fin, elle fait comme ça avec ses lunettes, et elle me dit, « Jeune homme, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie ?» Oh, bon, alors, à ce moment-là, je lui dis, « Je pense que je vais entrer au grand séminaire pour devenir prêtre. » Ses lunettes ont sauté comme ça.
Elles sont parties dans... Ah oui, elles sont parties.
Elle m'a dit, « Bon, jeune homme, je retire pas ce que j'allais dire, mais je vous le dis, vous irez loin. » Bon, ah, je sais pas ce que je voulais dire, bon, vous irez de loin. Mais voilà, ça c'est un souvenir de Tana.
Côté créole, pas besoin la paix. Dresse la tête, rouvre ton ziel. Ôté créole, pas besoin la peur. Dresse la tête.
C'est à partir de ce moment-là que vous vous êtes dit, je vais devenir prêtre. Mais comment ça vous est venu? Parce que vous avez parlé de votre bac de philo, mais
l'idée, c'est précisé à ce moment-là. Parce qu'en philosophie, on avait un professeur qui était excellent, c'était le père Rosière, un jésuite qui était très renommé dans son enseignement philo. Et on a eu toute une réflexion sur le choix, la question du choix personnel et du projet de vie. Et on a fait une retraite de fin d'année, je me souviens, c'était dans la propriété des jésuites à l'extérieur de Tanal. La propriété s'appelait Bourbon. Voilà. Parce que le collège avait été fondé par un De Villèle qui était réunionnais à l'époque. Et à ce moment-là, oui, là, véritablement, il y a eu un engagement de ma part. Mais ce n'est pas un engagement définitif, c'est un engagement progressif.
Oui.
Donc, on m'a envoyé à partir de Saint-Michel... au grand séminaire de la Croix-Valmer, qui est situé tout près de Fréjus, en face des îles du Levant. Et ce séminaire était l'héritage de du séminaire des colonies, qui avait été fondé en 1850, au moment où les chrétientés de la Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de l'île Maurice, devenait, l'île Maurice était déjà avant, mais jusque la Guyane, devenait diocèse. Auparavant, il n'y avait pas de diocèse, et à partir de ce moment-là, il y a un diocèse, en 1850. Mais on ne pouvait créer un diocèse que si ce territoire avait un séminaire. Or, il n'était pas possible, pour la Réunion tout seul, pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, d'avoir un séminaire tout seul. D'où l'idée de faire un séminaire commun situé à Paris, derrière le Panthéon. Ça s'appelait le séminaire des colonies, séminaire colonial. Il est resté là jusqu'en 1952. De 52 à 62, on est parti sur la Côte d'Azur, à Croix-Valmer. Et Croix-Valmer s'est fermé en 62, et à partir de ce moment-là, on m'a envoyé au séminaire français à Rome et à l'université grégorienne. Donc là, ça a été un changement de capacité d'études, si on peut dire.
Ouais.
Et j'ai fait la licence canonique de philosophie, et les cours se faisaient en latin. Donc, les cours oraux, évidemment. Les professeurs étaient de différentes nationalités. Alors, c'était un peu cocasse avec les différents accents des professeurs. Et les examens oraux se faisaient aussi en latin et les examens écrits aussi. Donc, on maîtrisait suffisamment le latin au début, on essayait de traduire, mais au bout d'un certain temps, bon, ça venait spontanément, on transcrivait en latin. Voilà.
D'accord. Et vous avez commencé à faire la messe en latin?
Alors là, je ne suis pas encore arrivé à la messe.
Ah, c'est pas encore la messe, là.
Et j'arrive au moment du service militaire. Ah. Service militaire en même temps, là, c'est la période de la guerre d'Algérie. Et au petit séminaire de Sillaos, ils avaient besoin d'un prof. Et le supérieur du séminaire de Sillaos est intervenu pour que je devienne professeur de français, latin, bon, musique et sport, tout ça, à Sillaos. Ce qui fait que pendant 2 ans, j'ai été VAT, sous le statut de VAT, volontaire à l'assistance technique. Donc 2 ans de professorat qui, pour moi, ont été vraiment bénéfiques. parce que ça m'a permis de, je dirais, d'approfondir mes connaissances et en même temps de développer la dimension pédagogique. Ça a été 2 années très riches, après quoi je suis retourné à Rome pour commencer mes études de théologie. Donc ça devait être 65-66 par là. Et c'était là un changement radical, parce que dans la première période de philo, on était déjà en soutane avec le col romain, tout en latin, et voilà que Concile Vatican II avait commencé à Rome, et on arrive en plein dans cette période, et alors... Là, il y avait aussi des filles. On était de 50 nationalités. Et les cours, il fallait maîtriser, évidemment, sa langue originelle, le français. D'ailleurs, c'était inscrit dans les possibilités. Mais on devait aussi maîtriser l'italien et l'anglais.
Parce que c'était au Vatican, c'était pour hein? ça. C'est parce que c'était à Rome, qu'il fallait maîtriser ces langues-là.
Ben c'était à Rome, oui. Et puis on avait fait une pré-rentrée pour ceux qui venaient pour la première fois pour un stage d'italien. Voilà. Donc on prend la théologie et j'arrive en troisième année de théologie. Je termine la troisième année. Il y a un professeur de théologie morale qui discute avec moi et qui me dit « Bon, si vous allez vers le doctorat, ben je suis prêt à vous prendre comme doctorant. » Alors moi, j'en parle à mon évêque, c'était Monseigneur Guibert, et il dit « Oui, pourquoi pas ?» Bon, alors je retourne en troisième année, pensant déjà que quatrième année, et puis j'enclenche la formation doctorale. Et voilà que pendant la quatrième année, précédant la possibilité de devenir doctorant, il m'écrit, il me dit « Mon cher fils, rentre, on a besoin de toi. » Bon, ah. À ce moment-là, je reviens à La Réunion, je suis ordonné prêtre en 1970, c'était le 23 août, l'ordination le 23 août 1970 au Tampon. C'était le père Rochefeuille qui était curé et il avait organisé une veillée de prière le 22 au soir avec un groupe de personnes, à peu près 200 personnes dans l'église du Tampon. On était 2 à être ordonnés le lendemain, Yvan Bénard qui est décédé maintenant. Et à la fin de ce temps de prière, alors, chacun devait donner son témoignage vocationnel. Bon, Yvan passe avant moi, et puis arrive mon tour, je dis ce que j'ai à dire, et puis il y a une femme qui me pointe là, qui me dit « Vous là, vous allez devenir prêtre, pourquoi vous avez choisi de devenir prêtre ?» Bon, alors moi,
quelle question.
Je fais puis je rosse un peu les épaules, première fois, bon. Deuxième fois, le père Rochefeuille me relance. Bon, pareil. Bon, là, dans l'assistant, je sens comment ça commence à grouiller. Il devait penser, là, quoi, ce bonhomme-là, il devient prêtre demain. Il ne sait pas pourquoi il devient prêtre. Bon. Et alors, la troisième fois, là, j'ai une voix intérieure qui me vient. Et puis, ce n'est pas toi qui m'a choisi, c'est moi qui t'ai choisi pour que tu ailles, que tu portes du fruit et que ton fruit demeure. C'est les paroles de Jésus, voilà, à ses disciples. Donc, le choix n'est pas d'abord pour moi, n'a pas été pour moi de choisir, mais j'ai choisi quand même, mais j'ai choisi de me laisser choisir. Et c'est la réponse que j'ai donnée la troisième fois. Et pour moi, c'est devenu ma parole existentielle. Elle est encore là. Voilà. Je n'ai pas choisi, j'ai choisi.
Vous avez été choisi par.
De me laisser choisir. Je découvre que le choix était antécédent à ma propre volonté. Et ça me ramène à un moment où j'étais déjà évêque, et puis un après-midi, là, le téléphone sonne, et c'est la sœur de ma marraine, elle était très âgée, ma marraine était déjà décédée, et elle me dit « Gilbert, j'ai un secret à te dire ». Je dis « Si tu as un secret, moi je t'écoute ». Alors elle me dit « C'était à la ravine des Cambris, dans la maison de ton grand-père, qui était décédé ». Et on sortait de la messe avec ta mère, et ta mère t'a dit, « Va-t'en le dire à ta marraine ». Je suis allé dire à ma marraine, et alors j'ai dit, « Marraine, je veux devenir prêtre ». Et elle me dit, « Mon enfant, si tu deviens prêtre, sois un bon prêtre. Tu sais ce que ça veut dire, un bon prêtre ?» Et moi, je lui réponds, « Oui, marraine, je sais ». Et je pose la question à la sœur de ma marraine. Je lui dis quel âge j'avais à ce moment-là. Et elle me répond, bon, tu devais avoir 5 ans à peine. Alors comme moi,
cinq.
En 1970, j'avais répondu par les paroles, ce n'est pas moi qui ai choisi. J'ai choisi de me laisser choisir. Et quand on tombait les deux ensemble, à ce moment-là, ça prend une densité qui dépasse, je dirais, ma simple humanité.
Mm-hmm. Et donc aujourd'hui, c'est toujours votre même façon de
penser. Ben c'est ça. C'est ma parole existentielle. Hein. Voilà.
Donc en août 1970, vous devenez prêtre. Et j'ai vu là dans votre historique là, que... De 71 à 1974, vous étiez animateur.
Oui, j'avais plusieurs casquettes.
Oui, à la REP. C'est
j'étais animateur à la REP. J'étais aussi animateur à l'APR, l'Association Promotion Rurale, qui avait été lancée par la REP. Et la REP avait été lancée par le père Jean de Puybaudet, qui était un jésuite, qui était branché sur l'action sociale. Avec Isotier à Saint-Pierre, je cherche son prénom.
Bon, Philippe, non,
non. Charles Isotier.
Charles Isotier
et à Saint-Pierre.
Bon, et après, un peu plus tard, il y a eu.
Ils ont travaillé, et puis, comme de Puybaudet connaissait aussi des Réunionnais qui étaient à Madagascar, qui avaient travaillé déjà là-bas, avec Gabidi, Caro. Tout ce monde-là travaillait ensemble.
Que j'ai bien connu aussi.
Et moi, je passais, j'ai travaillé avec eux.
Oui.
Bon.
Et là, animateur avec eux. Parce que la REP, c'est l'Association Réunionnaise d'Éducation Populaire.
Oui, et là, c'est la REP qui a fait naître l'ARCA, oui. Association Réunionnaise de cours d'alphabétisation, qui a fait naître l'ARES, Association Réunionnaise d'Éducation Sanitaire. C'est l'association mère.
Oui, c'est
de pas mal d'associations.
Je connais bien parce que je passais par là-bas. Enfin, voilà, c'est une histoire. Mais et là, vous, en tant qu'animateur, vous étiez quoi, footballeur
Non, j'étais pas footballeur.
En salle, le côté pédagogique alors.
Oui, alors notamment dans les sessions qu'on organisait, il y avait. Aussi la connaissance de l'histoire de la Réunion et de l'évolution politique.
Oui.
Ce qui fait que moi j'ai apporté cette dimension-là, et puis quelques clés pour l'animation. C'était vraiment intéressant. Une fois on a fait, et puis avec Marie-Françoise Dupuis,
oui.
On avait monté la REP jeune, et on organisait des chantiers de jeunes. Je me souviens très bien du chantier de mise en propreté de la rivière Langevin, depuis l'embouchure jusqu'à la passerelle là-haut. Alors on était là avec nos grands sacs, et puis on ramassait des bouteilles, des papiers, des trucs. on a tout nettoyé et on dormait dans les anciennes baraques qui avaient servi à la construction des pour les ouvriers du barrage qui était là-haut. Voilà.
Et vous accompagnez les jeunes pour faire sur le chantier et le sentier.
Oui. On était dans l'encadrement, j'étais dans parmi les cadres.
Et ensuite, en 1975, vous êtes ordonné évêque.
En 1976.
Le 20 novembre 1975.
20 novembre 75, oui. C'est la nomination, je dirais, mais c'est une nomination qui n'est pas rendue publique. Bon, là, il y a des enquêtes qui sont faites, c'est toujours comme ça pour la nomination des évêques.
Oui.
Le Saint-Siège Rome organise une enquête qui est coordonnée par l'annonciature, le nonce qui est à Tananarive. Et le nonce qui est à Tananarive, il était venu à la Réunion, il avait reçu pas mal de personnes. Moi aussi, j'ai été dans le tas, comme on dit, mais je ne savais pas qu'on allait tirer au sort pour que le plus jeune, voilà.
C'est le plus jeune, donc on s'est dit, on va prendre celui-là, il est bien, il est sympa, ça fera un bon évêque.
Là, je pense qu'il n'y avait pas de sympathie.
Ah bon, d'accord. Il y a le côté sérieux et le côté personne qui correspondait au profil.
Voilà, c'est ça la question. Parce que en plus, là, il fallait arriver, entre guillemets, à avoir un évêque qui soit réunionné, parce que on était dans la période politique de recherche concernant politiquement, de recherche pour l'autonomie, voire l'indépendance de la Réunion. Alors, si on a un évêque métropolitain, à la limite, il y a un changement politique, on peut le mettre dehors, mais si c'est un réunionnais, on ne pourra pas le mettre dehors. Donc, il faut un réunionnais, et c'est comme ça aussi que le choix s'est opéré.
Donc, il y avait d'autres prêtres aussi à l'époque, mais
c'était vous qui avez donné, le plus... Normalement, Rome demande ce qu'on appelle une terna. Bon, moi, j'ai découvert la terna après, bien après. Mais dans la terna, il y avait le père Rochefeuille, qui était au tampon, le père René Payette, et puis moi-même.
D'accord, et c'est vous qui avez été choisi, et vous avez... tenu votre siège pendant 50 ans.
Oui, mais je dois dire que le scoutisme que j'ai fait avant, ensuite mon animation à la REP,
oui.
Et une autre grande responsabilité que j'ai eue de jeune prêtre, c'était avec Jean de Pibaudet d'être coordinateur de... l'équipe de rédaction de l'hebdomadaire Croix-Sud. Et à ce moment-là, nous avions mis en place un dossier mensuel qui était réalisé en coordination avec nous par des spécialistes. Par exemple, on a travaillé avec René Robert sur les récifs coralliens, Thérésien Cadet sur la botanique. Mm-hmm. Tout ça, ça a contribué aussi à renforcer ma connaissance de la Réunion, un peu dans tous les domaines. Et au niveau de la rédaction de Croix-Sud, on participait aussi à conférences de presse, et conférences de presse à la préfecture. Je me souviens aussi d'une anecdote, il y avait Lulu Bidinger, qui était journaliste, qui travaillait à Témoignages, et dans une conférence à la préfecture sur les élections, je ne me souviens plus trop quelles élections, Lulu qui dit « D'ailleurs, Monseigneur Guibert a sorti un communiqué. » J'ai dit « Lulu, reste tranquille, moi je m'occupe du communiqué de l'évêque, c'est pas toi qui vas répondre. »
Thank you.
souviens, mon nénère adoré, le petit bouquet qu'on la donne à moi. A longtemps qu'il est fané, si vi souviens, comme ça l'est loin. Vi souviens, mon nénère adoré.
Monseigneur Aubry, mais ça y est, 50 ans, vous êtes toujours dans vos 50 ans et vous aurez toujours 50 ans.
Et moi, ça me renvoie là. Je rebobine à l'envers et j'arrive à 1975. Il y a Monseigneur Guibert qui arrive à 25 ans d'épiscopat. Auparavant, il a été 15 ans, 10 ans évêque, 10 ans évêque à Dakar avec Monseigneur Marcel Lefebvre, qui avait fait scission avec Rome. Et Monseigneur Guibert, alors, présente sa démission, le pape l'accepte, il y a le père Urbain Quatrefage qui va faire l'intérim, non pas en tant qu'évêque, mais en tant qu'administrateur apostolique. Et un matin, c'était le jour des obsèques de Sœur Colette qui avait bien organisé là l'hôpital d'enfants de Saint-Denis. Et elle avait été élève de Robert Debré, le père de Michel Debré. Sœur Colette décède et moi, jeune prêtre, la veille de son décès, j'étais encore avec elle quand j'apprends son décès. Et on me demande d'animer les obsèques qui étaient en plein air dans la cour de l'hôpital d'enfants. Je prépare tout et l'évangile que le père Quatrefage avait choisi, c'était « Si le grain de blé ne tombe en terre, il ne porte pas de fruits ». Et c'est ce matin-là, avant la messe, qui m'appelle et qui me dit, voilà, assieds-toi là. Bon, en face de lui, de son bureau, il me dit, voilà, le pape Paul VI, par l'intermédiaire de l'annonciature, te demande si tu acceptes de devenir évêque de La Réunion. Je lui dis, est-ce que je peux parler à mon accompagnateur spirituel? Il me dit, non. Secret pontifical. Est-ce que je peux parler à un ami dont je suis sûr? Il me dit non. Bon, je lui dis de combien de temps j'ai pour réfléchir. Il me dit je dois donner réponse codée à l'annonciature de Tananarive aujourd'hui même à 16h. Oh.
Ça fait court comme réflexion quand même, ça donne.
Oui, alors je lui dis on verra. Bon. Et alors on arrive à la messe des obsèques. J'anime l'évangile, si le grain de blé ne tombe en terre. Voilà. Et pendant l'homélie, je sens les larmes qui coulent sur mon visage. Les gens devaient se dire, mon Dieu qui devait bien aimer Sœur Colette.
Ouais. Mais, oui, bah oui.
Mais c'était pas ça du tout.
Non. Ah.
C'était que je pensais à la réponse. Qu'est-ce que je vais répondre? Bon, puis ça m'a travaillé pendant toute la messe. Après, on retourne à la sacristie. Et puis, le père Quatrefage, les gens sortent, et puis il reste que le père Quatrefage et moi. J'ai dit, Urbain, vu le temps dont on dispose, j'ai dit oui. Bon, et c'est dans ces circonstances-là que j'ai dit oui. Pour devenir évêque à La Réunion.
Ah ouais, c'est prenant quand même, parce que en même temps vous faites la messe pour une personne que vous avez beaucoup appréciée, avec qui vous avez beaucoup travaillé, et tout à coup on vous demande de devenir l'évêque et représenter toute une population sur votre île. Et c'est vrai que ça donne envie de pleurer, parce que les deux moments étaient vraiment extrêmement intenses.
Ça s'additionnait.
Oui.
Ça s'additionnait.
Et après, vous avez pris ça et vous avez fait toute votre vie jusqu'à votre retraite il n'y a pas très longtemps. Et vous avez continué à travailler.
Ah oui, mais la retraite, elle n'arrive pas comme ça du jour au lendemain.
Oui, c'est bon. Bien.
Parce qu'entre-temps, il y a aussi les relations avec l'océan Indien, avec l'île Maurice, Rodrigue, Madagascar, mais ce n'est pas sur la même dimension, les Seychelles, les Comores, et avec Jean Margeau. Il n'était pas cardinal à ce moment-là, il était à l'île Maurice, et Rome l'avait classé avec Nairobi là-bas. Et puis après, elle avait envoyé avec Madagascar pour essayer de voir, pouvait travailler ensemble. Mais lui, premièrement, il se retrouvait pas avec Nairobi. Madagascar, les débats se faisaient en langue malgache. Et l'idée lui est venue de dire, ben, allons faire une conférence épiscopale des îles, des petites îles de l'océan Indien. Et c'est comme ça que l'idée a été soumise à Rome. Ils n'ont pas accepté tout de suite, mais on a créé la zone pastorale des petites îles de l'océan Indien comme étape intérimaire pour voir si ça pouvait marcher ou pas. Et on avait un jésuite, Xavier Baronnet, qui avait été du côté de des îles là-bas, qui était en Nouvelle-Calédonie. Et on l'a pris comme, il était à La Réunion, on l'a pris comme secrétaire. Alors il faisait la navette entre nos îles, ça a marché, et à ce moment-là, ben Rome nous a dit, allez, maintenant on pouvait partir sur une conférence épiscopale. Et en 1985, on a eu la création, véritablement, de la CEDOI, C-E-D-O-I, conférence conférence épiscopale diocèse océan Indien. Voilà. Et depuis, alors, on a pris à travailler ensemble.
Elle existe toujours.
Ben oui, elle existe toujours, oui. C'est... Et en apprenant comme ça à travailler ensemble, ça nous a fait vraiment, premièrement, ne pas être seul. Si on a des problèmes, on peut se partager ces problèmes-là en commun, faire une réflexion. L'importance des messages collectifs que nous avions adressés à nos différentes îles au clergé après chaque réunion, chaque assemblée générale. Et les assemblées générales étaient tournantes. Chaque année, on faisait dans une île différente et on recommençait. Ça nous a aidés à lancer une pastorale diocésaine et avec des thèmes communs à chacune de nos îles. Et finalement, ça a continué jusqu'à présent.
Et ensuite, vous avez créé à La Réunion le GDIR. C'est un peu plus tard. Mais ça, c'était surtout pour...
Non, le GDIR, on l'a démarré de manière informelle, déjà au moment où il y avait eu la première guerre du Golfe. Il y avait eu des contacts entre nous. Et puis le jour même de mon ordination épiscopale à la Redoute, le 2 mai 76, j'avais invité des personnalités des différents filons religieux et politiques. Mmh. Bon, anecdote aussi, alors là, quand on reprend les images qui ont été tournées, tout le monde est en place, on s'avance, et puis dans le champ de la caméra derrière nous, on voit, quand on visionne après, on voit Vergès qui arrive avec son équipe.
Ouais.
Donc, c'était un maître en commun. Là, il utilise l'événement. Il utilise l'événement.
Parce qu'à l'époque, c'était, comme vous disiez, l'époque de la demande de l'indépendance. Et...
C'était la question autonomie.
Autonomie, ouais, c'est ça. Voilà.
Chant par un voyage dans la mémoire des coquillages, nage, nage.
en compagnie de Monseigneur Gilbert Aubry pour les 50 ans de son épiscopat. Et là, nous allons évoquer, Monseigneur, les, on va dire, les temps forts de votre épiscopat, les moments, les plus forts, ceux qui vous ont le plus marqué.
Je dirais que le premier temps fort, je dirais, pour moi-même, ça a été mon ordination sacerdotale le 23 août 70 dans l'église du Tampon, qui est l'église Saint-François de Sales, patron des journalistes. Et je me souviens, au moment de la grande prostration, pendant que la litanie des saints se déroule, j'avais un petit neveu juste dans le banc à côté de moi, mais il me regardait, je sentais sa présence, et il dit à sa maman un peu fort, « Mais qu'est-ce qu'il a, Gilbert, il est malade !» Allongé par terre. Bon. Et ben là, on n'existe plus, là, quand on est allongé sur le sol comme ça. Bon, et puis toute la litanie des saints, ça te passe sur le dos, là. Bon, là, tu es habité,
ouais,
par une présence qui est très forte et qui te dépasse. Ça, c'est un temps fort. Ensuite, la redoute pour mon ordination épiscopale. L'ordination était prévue fin avril. J'ai pas plus exactement la date, ça devait être le 24 avril par là. Et il y a eu un déluge qui a rendu deux jours avant, qui a rendu la pelouse, inutilisable. Alors, il pleuvait encore la veille. Le père Denmont, Antoine Denmont, était responsable de la liturgie. Alors, on se réunit avec une équipe, on dit, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on dit, il faut supprimer. Alors, supprimer, alors que tout est organisé, les invités, les évêques des Seychelles, de l'île Maurice, le représentant de Madagascar, l'annonciature, tout le monde est là. Bon, on est obligé de prendre la décision et est reporté à ce moment-là au 2 mai. Et alors le 2 mai, stade de la redoute, et il a fallu calculer un podium qui s'emboîtait avec les tribunes, et RFO avait fait une installation sur un quart d'émission, mais c'est pas comme les bus qui sont équipés d'une manière formidable aujourd'hui, avec une antenne parabolique au-dessus, et ça a été retransmis en direct par RFO sur l'île Maurice à la MBC. C'était une première émission qui faisait comme ça, pratiquement en duplex, quoi. Et il y avait là une foule d'environ 10-12 000 personnes, et il a fallu organiser les départs et les arrivées. Voilà. De telle manière que ceux qui étaient plus loin se déplaçaient d'abord, et les plus près arrivaient après, venaient après.
Mmh.
Alors la gendarmerie était dans le coup. Et vraiment, ils ont fait un travail très, très précis, très précis. Donc, oui, temps fort, il y a eu ça. Le voyage du pape en 1989.
Oui, oui.
C'était l'année de Firinga. Et Firinga, en janvier, on avait commencé à travailler un peu là-dessus, en même temps qu'on avait combiné la béatification du frère Jean-Bernard Rousseau, le frère Scubillon, avec le voyage du pape. Et normalement, à ce moment-là, les béatifications se faisaient à Rome, mais Rome a dit, on va faire la béatification à La Réunion. Et Jean-Paul II était d'accord là-dessus. Et Jean-Paul II avait fait d'abord le déplacement sur Diego Suarez. Et de Diego, il passait sur Tana. De Tana, il passait sur La Réunion. Et donc, ça s'est fait comme ça. On l'a accueilli à l'aéroport. Il est arrivé par Air Madagascar. Les grandes les personnalités étaient là à l'arrivée. Et puis on m'a dit, vous montez dans l'avion pour saluer le pape et puis vous descendez après lui. Donc on m'a fait rentrer dans l'avion d'Air Madagascar. C'est là où j'ai accueilli le pape. Il est descendu la passerelle avant moi, il s'est mis à genoux, il a embrassé le sol. Et puis après, on est rentré dans la papa mobile. Et les gens étaient massés devant l'aéroport. On n'est pas passé par la douane. On a fait le tour, on est arrivé devant l'aéroport. Il a fait une première station. Il a dit quelques mots. Et depuis l'aéroport jusqu'à... la préfecture d'abord, la cathédrale ensuite et l'évêché, partout il y avait du monde sur le parcours. Et arrivé au Butor, alors la foule mangeait sur la route. Voilà. Et il y avait des motards en cigogne devant qui essayaient d'avancer, donc ils ont réussi à avancer très lentement. Et il y avait deux voitures entre les motards et la papa mobile. Les gars ont ouvert les portes arrière des deux voitures. Alors là, il y avait l'équipe des voyages officiels de la France et du Vatican. Ils avaient bien coordonné la sécurité. Donc les portes arrière ouvertes, bloquées avec les pieds, ça faisait comme des chasse-neige comme ça. Bon. Et là, on pouvait passer en avancée. Le conducteur de la papa mobile, il avait une ampoule scotchée dans sa main gauche, et si jamais il y avait un blocage total, il écrasait l'ampoule, il y a un hélico qui arrivait qui exfiltrait le pape. Bon. Donc on est parti directement à la préfecture, parce qu'il a été reçu en même temps comme chef d'État. Le Vatican.
Ouais.
Et le premier ministre, c'était Rocard, ministre de l'Intérieur, Jox. Alors, le préfet, qui était Anciot a accueilli tête à tête, c'est pas Anciot, c'est Rocard. Rocard qui a accueilli dans le bureau du préfet, tête à tête, avec Jean-Paul II. Pendant ce temps-là, Jox était resté à l'extérieur. Tous les corps constitués étaient déjà dans le grand salon de la préfecture. Bon. Alors, quand Rocard est sorti du bureau du préfet avec l'évêque, on est monté ensemble à l'étage, et là, j'ai dû faire le tour de tous les corps constitués et présenter les personnes. Voilà. Bon. Et arrivé à Paul Vergès, je dis « Monsieur Paul Vergès, secrétaire général du Parti communiste réunionnais, hein, se serre les mains. » Et au moment où les mains se retirent, Paul Vergès reprend les mains du pape et secoue comme ça. Bon. Alors, Rocard a fait un discours remarquable sur l'apport de l'Église à l'éducation avec les écoles qui avaient été mises en place avant tout le système de l'éducation nationale. C'est vraiment un moment très très fort. Et il a parlé aussi de l'importance des relations que l'Église avait instaurées entre les diverses îles à travers la zone pastorale des îles de l'océan Indien et la conférence. Il s'était vraiment bien renseigné. Hein. Bon. Après quoi... on est parti à la cathédrale. La cathédrale était bondée et on avait bloqué l'allée centrale en mettant des tentures et puis des grands cordages qui étaient très jolis. Même chose dans le chœur. Et le pape, à ce moment-là, on avait déplacé la cathèdre, on avait mis la cathèdre devant l'autel. Et on a fait un moment de prière qui était très, très intense. On quitte la cathédrale après, on part à l'évêché. Là aussi, sur le parcours, des personnes à n'en plus finir, en face de l'évêché. Il y avait le guet-apens de la maison Barbeau, les gens étaient là-dessus. Les gens réclamaient Jean-Paul II, Jean-Paul II, Jean-Paul II. Le papa mobile était rentré par l'autre portail. Jean-Paul II est allé au guet-apens et moi avec lui. Voilà, il a fait quelques saluts comme ça. Il a dormi à l'évêché. Bon, avant de dormir, on a partagé un repas avec le cardinal. Il y avait plusieurs cardinaux. Il y avait le cardinal de Courtrai qui était président de la conférence des évêques de France. Et puis d'autres personnalités. Casaroli aussi était là. De Rome. Et le lendemain, alors, ça a été la grande opération rassemblement à la Trinité. À la place de la médiathèque actuelle, là, il n'y avait pas de médiathèque, mais il y avait un amoncellement, là, au bout de collines de détritus et tout.
Ouais, c'est le parvis qu'ils avaient nettoyé spécialement.
C'était un dépotoir.
Ouais, ouais.
Et c'était Auguste le Gros qui était maire quand on avait commencé les démarches. Alors on était allé au point le plus haut. Mais je lui dis, monsieur le maire, à mon avis, c'est là parce qu'il n'y a pas d'autres endroits. Si vous nettoyez, c'est tout acquis pour la municipalité. Et puis après, bon, le terrain est prêt pour l'opération que vous voulez. On m'a dit, oui, oui, d'accord, bon, on est parti là-dessus. Et on a fait les plans de l'espace. C'est-à-dire, accoler le podium sur la façade de l'église Notre-Dame de la Trinité et mettre un auvent qui était accroché avec des tendeurs, des supports métalliques, l'hôtel qui était dessous, la grande allée qui partait jusqu'au point le plus haut, les toilettes se trouvaient au fond à droite, tout au loin, il y avait un poule communication avec télévision et la première chaîne française là était là aussi.
TF1.
Ça devait être TF1, oui. Et on avait je cherche son nom là. Michel Di Falco, qui n'était pas évêque à ce moment-là, il était responsable de la com des évêques de France et il faisait le commentaire en direct. Et on avait calculé les allées, une allée centrale, deux grandes allées en biais, des petites allées après dans des îlots. Et pour éviter que la foule, bloque les allées, on avait décaissé les allées de 80 cm, 80-90 cm, de telle manière que si les gens descendaient dans les allées, ils ne voyaient plus rien. Bon. Donc, ils sont restés dans les allées. Et pour la communion, alors, on avait prévu un bus Volkswagen qui, on avait mis des grands paniers en bambou tressé, et dans les grands paniers, il y avait 5 grands paniers en bambou tressé, et dans les grands paniers, il y avait des petits paniers, comme ça, avec des hosties, et les prêtres venaient prendre des paniers, comme ça. Chaque îlot était numéroté, on savait où aller tel prêtre, tel prêtre, tel prêtre. Et le bus Volkswagen avec quelques paniers, là, on fait le tour par l'extérieur, et on est allé vers la foule à partir du podium et à partir du bus Volkswagen qui a fait le tour. Voilà. Après quoi? Après la messe, là, on n'a pas perdu de temps. Jean-Paul II s'est rafraîchi un peu. Et puis, on est parti directement à Gilo, parce qu'il reprenait l'avion cette fois-ci avec le Concorde, parce que la France avait tenu à ce que... c'est toujours le pays... d'où il part, c'est un avion du pays qui a accueilli, qui le conduit au pays suivant. Et la France a tenu à ce que ce soit dans le Concorde. Donc le Concorde était là. Et puis un grand tapis rouge. Rocard a accompagné moi aussi. On a accompagné Jean-Paul II jusqu'à la passerelle. Au revoir. Il est parti.
Monseigneur Pascal Chanteng vous a remplacé en 2023. Après de nombreuses et de belles années d'évêque à La Réunion.
Oui.
Vous lui avez donné, comment on dit, vous donné le flambeau, vous lui avez donné...
On fait la transmission.
Vous avez fait la transmission de...
Et ben, on, là aussi, c'était une très grande opération, parce qu'il a fallu trouver un espace. Et alors, on a combiné l'espace habituel des grands rassemblements du Chaudron avec l'espace du marché forain. Donc, il y avait deux espaces combinés, avec un espace, je dirais, hôtel célébrant. Voilà. Et là aussi, il a fallu faire le plan de l'espace, le positionnement des personnalités. Et ce jour-là, on a estimé à 30 000 personnes.
30 000 personnes, c'est beaucoup quand même. C'est...
Pour le rassemblement du pape, on était entre 110 et 120 000 personnes. C'est le plus grand rassemblement qu'on ait eu.
Qu'on ait à La Réunion. Donc je vais donner un petit rendez-vous, Monseigneur. C'est le 1er mai 2026 pour votre messe jubilaire qui aura lieu sur l'esplanade de la Vierge Noire.
Oui, alors pour la célébration de l'Eucharistie, le 1er mai... normalement, il y a déjà un grand rassemblement chaque 1er mai à la Vierge Noire. Il y a trois espaces là sur cette esplanade. Il y a directement devant la statue est là-bas, comme ça. Il y a un autre espace qui s'emboîte à droite. Et puis le long de l'église à gauche, devant le cimetière, tout peut converger vers le podium. Et là, on s'apprête à accueillir... les 25 évêques de Madagascar qui vont venir. Il y a un évêque de France et puis les évêques de la CEDOA, de la conférence des évêques d'océan Indien. Donc ce sera un moment aussi unique dans l'histoire du diocèse de La Réunion.
Aum. Je cherche sur l'océan du sommeil. Je cherche, durant les lentes navigations du rêve, la passe vers l'île, l'idéal, le désert, la paroi calme, où de ramper s'arrêtera mon âme. Alors que la mort peut fêler tout cristal, je suis la coupe même où je bois mon destin, et je rêve à surgir de mon rêve, hors du temps et du monde, et creuse des voûtes infinies, des dômes terrifiants, comme une bête aux griffes mauves, errant par d'étroites cheminées, vers le clair d'un pré, vers le bleu d'un ciel, pour voir à l'horizon Dieu flattant des mains la crinière des vents.
Faites un bon jubilé.
Merci beaucoup.
Une bonne continuité dans votre vie de tous les jours. Et Monseigneur, je vous remercie encore vraiment beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt, Monseigneur.
Eh bien, merci d'être venu.
Comme de grandes mains dans un ciel de guitare. Où les envols d'oiseaux chantent des au revoir. Flambeaux marins dans le noir. Chaque voyage est un retour au fond de nos êtres, où les civilisations se brisent à prix dur. Où les civilisations se font, se défont, pour se refondre ailleurs,
là où le passé ne s'oublie pas, dans le ciment d'une vie.